interviewé par le Sénat, je crois que 12 sur les 16 personnes faisaient partie du groupement qui s'appelle JTEX ou quelque chose comme ça, qui sont les spécialistes de la vente de cartes de ce type. Voilà. Excusez-moi.
Merci, professeur. Voilà. J'espère que notre orateur ne va pas manquer son train. Et je vais passer la parole, après cette intéressante discussion, mais qui nous lasse un peu sur nos préoccupations, je vais passer la parole à Élise Debiès, qui est directrice des études au bureau du groupement d'intérêt public Info Retraite, mais qui a été auparavant au bureau des systèmes d'information de la Direction générale de la Sécurité sociale, où, qui enseigne par ailleurs dans un master de droit du numérique à Paris 1, où nous sommes d'ailleurs collègues, et elle va nous parler tout naturellement de la sécurité sociale administration numérique.
Merci, Monsieur le Président. Donc, j'ai bien entendu ce matin l'API souligner le caractère poussiéreux de l'image de l'assurance maladie. Et je vais essayer de renverser cette image ou au moins de l'amoindrir. C'est vrai qu'offrir un accès simple aux droits sociaux est particulièrement difficile pour les organismes de sécurité sociale puisque le contexte juridique et organisationnel est particulièrement compliqué. Il n'en reste pas moins que, en période de crise, hein, les organismes de sécurité sociale n'ont plus à démontrer leur rôle d'amortisseur. Par ailleurs, on est en pleine évolution sociologique, on l'a vu à plusieurs reprises aujourd'hui. En ce qui nous concerne, on doit faire face à une évolution de la structure familiale importante, à un vieillissement de la population. Et donc, globalement, il faut lutter contre les inégalités en répondant aux nouveaux besoins sociaux. Pour cela, le numérique est un formidable levier de modernisation, de simplification, de dialogue entre les assurés et les organismes de sécurité sociale. Et donc ces organismes s'en sont pleinement emparés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, eh bien, il n'est absolument pas rare de consulter son compte Amélie ou adhérer au chèque emploi-service universel ou de faire une simulation aide au logement sur le site de la CAF. Ce sont des démarches en ligne que la plupart d'entre vous ont certainement déjà fait. Par ailleurs, l'irruption des réseaux sociaux dans les relations donc, entre les assurés et les organismes de sécurité sociale est également un élément qu'il convient d'observer aujourd'hui, qui n'est pas en phase de maturité totale, mais on a des community managers qui sont formés par ces organismes et le dialogue s'instaure sur les réseaux sociaux également. Donc nous allons essayer d'examiner quelques questions juridiques posées par le numérique dans les organismes de sécurité sociale, un petit peu dans la ligne de ce qui a été présenté ce matin, hein, puisqu'il fallait choisir un axe. Je vais donc essayer de vous parler d'une part de l'information aux personnes, une information générale d'abord, une information individualisée ensuite, hein, puisque c'est en informant les personnes qu'on va les rendre acteurs de leur protection sociale. C'est un grand objectif affiché par les organismes. Cette information, quand elle est individualisée, elle pose la question de l'identification et on retombe sur la question du numéro de sécurité sociale que soulignait tout à l'heure monsieur le professeur et qui pose un véritable problème, enfin en tout cas une difficulté hein, pour les organismes de sécurité sociale. Suite à donc cette présentation de l'information à la fois générale et individualisée, nous parlerons de la place de l'assuré donc dans ses relations avec les organismes de sécurité sociale, sa place à travers son choix, hein, puisque bien informé, il va pouvoir choisir à différents niveaux. Hein, on verra que même les paranoïaques peuvent encore avoir des relations avec leurs organismes de sécurité sociale. Ce choix, ça pose la question du contrôle des données personnelles, hein, qui a été largement traité ce matin, mais qui est une véritable question pour nous. Et puis nous verrons enfin la place du consentement à différents niveaux, Comment exprimer ou comment ne pas pouvoir exprimer son consentement, puisqu'effectivement, dans certains traitements de données personnelles mis en œuvre par les organismes de sécurité sociale, le consentement de l'assuré n'a pas sa place. Hein, s'il s'agit de lutter contre la fraude, par exemple, on ne peut pas demander le consentement des gens. Et puis, on verra enfin, pour illustrer une façon de donner son consentement, l'utilisation qui est faite de la carte vitale, hein, qui est un petit peu la carte emblématique de l'assurance maladie. Donc, en ce qui concerne l'information générale, eh bien, il faut noter qu'elle est très, très diffusée aujourd'hui sur les sites. Alors, cette information générale qui participe à sa manière au mouvement d'open data qui a été très largement décrit ce matin, il est vrai qu'on est plus au stade de la transparence administrative qu'à celui de la délivrance d'informations sur la base de laquelle le marché va pouvoir développer des services. On n'est pas encore à cette diffusion d'informations brutes pour la création de services par le marché, mais ça va venir. Et en tout cas, il y a une information très diffusée, organisée, hein, puisque nous avons un portail du service public de la sécurité sociale, sécurité-sociale.fr, qui fédère cette information, hein, comme je disais au début, très très complexe, puisqu'on a une multiplicité de régimes. Hein, donc, travaillant effectivement au GIP Info Retraite, je coordonne l'information aux actifs délivrés par les 35 régimes de retraite en France. Donc ça illustre bien le panorama extrêmement varié d'organismes que nous avons. Et donc à travers ce portail, eh bien, on a une information fédérée, organisée, qui renvoie ensuite vers les sites des organismes pour une information plus précise ou pour la délivrance de services en ligne, puisque le portail de la sécurité sociale ne délivre aucune information individuelle, ne demande à aucun moment à l'internaute de s'identifier. On voit qu'on a quelques difficultés pour placer le curseur au bon niveau justement d'information. Est-ce que c'est une information qui ressort du site de la CAF, hein, ou bien est-ce qu'on va la répliquer sur le portail de la sécurité sociale? Les choses ne sont pas encore complètement limpides, mais l'important c'est de bien orienter l'internaute, et aujourd'hui l'internaute est bien informé de façon générale. Je vous souhaitais citer également un exemple d'information générale mais ciblée. Hein, nous allons envoyer à partir donc de septembre 2012 une information générale aux nouveaux actifs. Donc les personnes qui ont cotisé au moins deux trimestres vont recevoir une information sur leurs droits à retraite. Donc ça peut vous étonner, mais donc je vous le disais en début d'intervention, et c'est un objectif affiché de l'ensemble de la protection sociale de faire des assurés de véritables acteurs, et il nous est apparu, enfin le législateur a considéré utile d'informer les jeunes actifs sur leur carrière et la façon dont était organisée la protection sociale dans son ensemble et la cotisation pour les droits à retraite en particulier. Hein, donc là, c'est une information ciblée, puisque nous allons extraire du fichier des actifs donc les personnes qui ont cotisé au moins deux trimestres, mais nous allons leur envoyer, alors cette année papier, mais le texte de loi prévoit la possibilité d'envoyer une information également sur support électronique, nous allons leur envoyer une information générale sur le système de protection sociale et leurs droits à retraite. Un autre mode de divulguer une information tout en restant anonyme, ce sont les simulateurs, hein, qui fleurissent vraiment sur l'ensemble des sites des organismes de protection sociale. Donc vous pouvez simuler votre aide au logement, vous pouvez simuler vos droits à retraite avec le simulateur Marel, pour Ma Retraite en ligne, et ceci de façon complètement anonyme, hein, vous n'avez pas à vous identifier. Ce qui permet de conserver donc une marge à l'anonymat, hein, pour néanmoins la délivrance d'un service qui va être chiffré. Ces simulateurs sont quelquefois utilisés en accompagnement, hein, avec un conseiller. C'est le cas par exemple pour l'application ARSA ou IRSA qui est utilisée donc par un conseiller en lien avec le potentiels demandeurs de RSA. Et donc, on a pu renforcer vraiment le conseil destiné à une population qui peut être plus fragile en la couplant donc avec l'utilisation d'outils en ligne hein, qui facilitent le traitement des données. Donc, deuxième versant de ces services en ligne, c'est l'information individualisée. Pour délivrer une information individualisée, il faut connaître les gens. Alors, connaître les individus, c'est très utile pour les organismes de sécurité sociale, puisque ça va permettre de les suivre tout au long de leur parcours et également de leur pousser de l'information utile, de l'information profilée, hein, donc au fur et à mesure de l'évolution de leur parcours personnel ou professionnel. Donc, les organismes de sécurité sociale essayent d'inciter au maximum les gens à ouvrir des comptes en ligne, hein, ce qui suppose donc effectivement qu'ils s'identifient, qu'ils utilisent leur numéro de sécurité sociale. Et donc l'ouverture de ce compte va donner accès à des services personnalisés, donc au choix de l'internaute, et donc à une information qui lui est transmise de cette manière. En ce qui concerne le droit à l'information sur la retraite, il y a un aspect très important dans l'ouverture de ce compte, puisqu'il va permettre de demander un relevé individuel de situation en ligne. Donc vous allez pouvoir, en vous identifiant, demander votre relevé de carrière. Et à partir de ce relevé de carrière, eh bien, vous allez pouvoir indiquer à votre régime de retraite des périodes manquantes ou erronées, hein, ce qui va aboutir à un véritable dialogue et un petit peu au mode de ce qu'on voyait ce matin, à une coproduction d'informations, hein, puisque donc la personne va compléter sa carrière en indiquant ben oui, mais moi j'ai eu deux enfants, mes trimestres enfants ne sont pas indiqués dans mon relevé de carrière. Enfin, il y a ce dialogue qui s'instaure et qui va permettre donc le moment venu, au moment de la liquidation de la retraite, eh bien d'avoir quelque chose de beaucoup plus facile puisque la carrière est fiabilisée en amont. Donc on a, à travers l'utilisation de ce compte en ligne, on a donc un dialogue qui s'instaure tout à fait efficace et tout à fait bénéfique tant pour l'assuré que pour le régime de retraite, qui va donc pouvoir consacrer plus de ressources au conseil. Hein, puisqu'effectivement, la simplification de la liquidation hein, permet de libérer de la force de travail qui va être donc investie sur le conseil. Et c'est pour ça que le même législateur dont je parlais tout à l'heure, qui a créé une information aux nouveaux assurés, a créé également en 2010, hein, dans la loi portant réforme des retraites, un entretien à 45 ans. Alors vous voyez qu'on s'est vraiment consacré aux très jeunes actifs pour mon premier exemple et aux actifs un peu intermédiaires pour mon deuxième exemple. Mais donc il s'agit d'un entretien qui va pouvoir se dérouler en face à face, par téléphone ou par tout moyen de communication électronique et qui va permettre de faire le point sur la carrière de la personne. Donc on arrive vraiment à une mission de conseil hein, des agents, des organismes de sécurité sociale. Donc ils ne sont pas seuls sur ce terrain-là. Hein, vous avez dû entendre tout un tas d'annonces des banques, des assurances pour un conseil retraite, etc. Mais ils sont tout à fait légitimes puisque ce sont eux hein, qui ont les données carrière et qui ont l'expertise carrière hein, en termes de carrière et de compréhension des règles de cotisation et de liquidation, eh bien ils ont l'expertise que n'auront pas les banques ou les assurances qui en ont une autre complémentaire par ailleurs. Donc tout ceci nous amène à notre question de l'identifiant, donc le NIR, hein, dont nous avons déjà vu largement tout à l'heure que c'est un numéro sensible. Et c'est vrai qu'il nous pose vraiment des difficultés, ce NIR. Bon, vous savez qu'il est signifiant, hein, qu'on peut connaître beaucoup d'informations relatives à la personne à travers son utilisation. Il est gravé sur la carte vitale, hein, donc il n'est pas secret puisqu'il est gravé sur la carte vitale. Mais pour la CNIL, hein, mon voisin le disait tout à l'heure, c'est un numéro tout à fait particulier et donc eh bien son utilisation n'est pas aisée. Hein, nous devons pour des traitements de données personnelles qui utilisent le NIR hein, dans le domaine public, eh bien demander l'avis de la CNIL, ça n'est pas toujours facile. Par ailleurs, pour les organismes de sécurité sociale dont c'est quand même l'identifiant natif, hein, puisque c'est le numéro de sécurité sociale. Donc comment les identifier sinon ? Eh bien, nous avons d'un côté le code de la sécurité sociale qui nous autorise à l'utiliser, et d'autre part la loi informatique et liberté depuis la modification de 2004 qui instaure donc des formalités préalables très lourdes pour son utilisation, y compris pour les organismes de sécurité sociale, et cette articulation n'est pas aisée. Bon. Il n'en reste pas moins que c'est un identifiant solide et partagé par l'ensemble de la sphère sociale. Et d'ailleurs, nous avons défini un socle d'identification des assurés pour les services en ligne délivrés par les organismes de sécurité sociale. Donc ce socle de sécurité donc, prévoit l'utilisation du NIR, prévoit l'utilisation d'un standard de sécurité et d'interopérabilité, le standard Interops, qui est partagé par l'ensemble des organismes de sécurité sociale. Et donc ces règles font l'objet d'une circulaire de juillet 2011, et donc elles sont utilisées par l'ensemble de la sphère sociale. Donc on voit que petit à petit, donc à travers ces services en ligne, on a vraiment une prise en charge de l'individu par lui-même. Et un versant complémentaire de cette prise en charge, hein, donc sur l'information, ça fonctionne très bien. Hein, donc les gens sont bien informés, donc ils peuvent faire des choix, tout se passe bien. Il y a un volet un petit peu plus compliqué, c'est le contrôle de leurs données par les assurés. Alors c'est vrai qu'en ce qui concerne l'exercice du droit d'accès et de rectification, il n'est pas toujours facile à exercer. C'est pourtant le seul moyen aujourd'hui de connaître les données qui vous concernent, que traitent les administrations. Donc c'est sûr qu'il faudrait absolument améliorer les conditions d'exercice de ces deux droits. Par ailleurs, en ce qui concerne le contrôle de ces données par l'assuré, nous, on est très favorable, hein, puisque je vous ai dit qu'il y avait maintenant donc des documents qui étaient délivrés en ligne à la demande de l'assuré. On est très favorable au stockage de ces documents dans un lieu de stockage placé sous le contrôle de l'usager, hein, comme l'est l'espace de stockage de mon service public. Il n'en reste point moins qu'on a quelques interrogations sur les conditions d'utilisation de cet espace de stockage, hein, puisqu'il a été créé par l'ordonnance du 8 décembre 2005. Cette ordonnance prévoit bien que l'espace de stockage est sous le contrôle de l'usager, mais il est aussi sous la responsabilité de l'État. Donc que veut dire cette responsabilité de l'État ? Une fois que vous avez donné à un assuré un relevé de carrière en ligne, alors certes aujourd'hui il est dans un format PDF, donc qui va être difficilement réexploitable par la banque qui pourrait donc vouloir réutiliser les données de la carrière. Alors c'est possible, hein, mais il faut ressaisir. Hein, aujourd'hui, bon, c'est pas le bon, l'interopérabilité n'est pas optimale. Mais une fois que vous avez donné ce document à la personne, effectivement, eh bien cette personne, elle en fait ce qu'elle veut. Hein, et il nous semble qu'il faudrait prévoir quand même quelque part, alors soit dans les conditions d'utilisation du téléservice, eh bien les conditions de la réutilisation de ces données par un tiers, la façon dont la personne va pouvoir retirer l'autorisation de réutilisation de ces données qu'elle a pu donner, tout ce qui va permettre effectivement la gestion de ces données personnelles par la personne. Et aujourd'hui, il n'y a rien. Alors j'ai entendu ce matin qu'il y avait un projet je ne sais pas si c'est un projet, s'il existe déjà, de licence d'utilisation de ces données personnelles. Moi, ça m'a un petit peu frappée parce que là, du coup, on déporte vraiment sur la personne la possibilité de choisir, de paramétrer le mode d'utilisation de ces données personnelles. C'est une vision effectivement qui n'est pas celle de l'État, qui est plutôt de prévoir les choses, de les encadrer pour protéger l'individu, y compris contre lui-même. Hein, moi, ça m'allait plutôt mieux. Mais il faut, dans tous les cas, que ces conditions d'utilisation soient prévues quelque part. Donc, si elles ne le sont pas, eh bien, effectivement, cette licence d'utilisation, un petit peu au choix de l'assuré ou de l'internaute, eh bien, pourquoi pas ? Ce serait en tout cas un moindre mal par rapport au vide abysmal dans lequel nous nous trouvons actuellement. Donc, je vais peut-être accélérer un petit peu. Simplement pour vous dire, donc pour passer à l'aspect consentement hein, de la personne. Hein, donc on a vu qu'il peut faire des choix hein, à divers niveaux. Il peut donc avoir un certain contrôle de ses données à travers des espèces de stockage quand les conditions seront prévues de façon plus précise. Maintenant, quelle est la place de son consentement ? Alors c'est vrai qu'il y a, je le disais, hein, le répertoire national commun de la protection sociale, par exemple, que citait tout à l'heure monsieur, eh bien, a un objectif de lutte contre la fraude, c'est vrai. Il a aussi un objectif de meilleure attribution des droits aux assurés sociaux. Et on ne demande pas le consentement de la personne pour y figurer. Mais on le comprend aisément, puisque si on demandait le consentement de la personne, on ne pourrait plus gérer ses droits, on ne pourrait plus lutter contre la fraude, on ne pourrait plus répondre aux objectifs de ce répertoire. On a d'autres exemples où le consentement ne peut être demandé. C'est le cas, par exemple, quand il s'agit d'éviter une rupture de droit. Hein, par exemple, lorsqu'on va mettre en place des échanges entre la CNAM et Pôle emploi pour éviter la rupture de droit de la personne, eh bien, si on lui demande son consentement, on va perdre du temps. Donc là, c'est vrai qu'on risque vraiment la rupture de droit. Par ailleurs, c'est dans son seul bénéfice. Donc le consentement peut être considéré superfétatoire. En revanche, il y a des traitements qui ont été mis en place. Je vois des doutes dans la salle. Peut-être qu'effectivement, l'internaute paranoïaque préférerait même consentir à ce que ces données soient, à ce qu'il consente à l'échange de ces données pour éviter sa rupture de droit. Et alors, un autre cas que vous connaissez sans doute, hein, c'est la suppression de la déclaration de ressources à la CAF, hein, qui a été rendue possible par un échange de données entre le fisc et les allocations familiales. Là, c'est vrai que c'est simplificateur pour l'assuré. Ça permet de fiabiliser les informations puisqu'elles viennent directement du fisc. En revanche, on aurait pu quand même demander l'avis de la personne qui aurait pu, eh bien, s'il préférait transmettre lui-même ses ressources à sa CAF, continuer à le faire. C'est ce qui se passe pour les gens qui aujourd'hui ne font pas sont non imposables et donc ne déclarent pas leurs revenus aux impôts. Hein, comme ils n'en font pas de déclaration de revenus, ils continuent à faire une déclaration de ressources à la CAF. En revanche, ceux qui font une déclaration de revenus n'ont plus rien à faire auprès de la CAF. Donc là, on aurait pu quand même demander, je pense, le consentement de la personne. Et des contrôles a posteriori auraient pu toujours, dans tous les cas, être possibles. Je voulais illustrer juste pour terminer quelques cas d'utilisation de la carte vitale pour l'expression du consentement. Alors la carte vitale, hein, je souhaitais en parler parce que c'est vrai qu'elle est vraiment emblématique de notre système de protection sociale. C'est un petit peu comme le ticket de métro dans la main d'Yves Montand dans le film Le salaire de la peur, le talisman vers la France qui ne reverra jamais. Hein, donc les Français ou en tout cas les personnes qui habitent en France croient toujours qu'avec la carte vitale, ils ont droit à l'assurance maladie où qu'ils se trouvent, ce qui est faux. Hein, il faut se trouver sur le territoire français. Et donc, cette carte vitale, eh bien, je vais passer sa description, hein, puisque vous le retrouverez effectivement dans l'exposé qui sera publié. Elle est utilisée, vous savez, pour la transmission des feuilles de soins électroniques, mais elle va être utilisée aussi pour l'ouverture du DMP. Alors, en ce qui concerne le DMP, eh bien, c'est le médecin qui va recueillir le consentement du patient à l'ouverture du DMP par une case à cocher sur son écran, et ensuite la carte vitale est utilisée pour l'identification du patient ou de la personne. C'est pas forcément un patient, puisqu'on peut ouvrir un DMP pour, dans le cas d'une grossesse ou de situations qui ne sont pas de maladie. Mais donc ça ne sert pas à manifester son consentement. C'est la même chose dans le cas du dossier pharmaceutique. Hein, le pharmacien va recueillir le consentement de la personne à l'ouverture de son dossier pharmaceutique. Il va même lui remettre une attestation comme quoi il a autorisé cette ouverture. Et ensuite, la carte vitale va servir à l'identifier. Hein, donc la carte vitale couplée à la carte CPS, carte du professionnel de santé. Ces deux cartes vont être nécessaires pour l'accès au système. En revanche, pour la consultation de l'historique des remboursements, hein, eh bien là, les textes prévoient que la présentation de la carte vitale présume l'accord explicite du patient pour que le médecin consulte l'historique des remboursements. Donc, on voit qu'on a différents niveaux d'utilisation de la carte vitale et d'articulation de cette carte vitale avec l'expression d'un consentement qu'il pourrait être utile d'harmoniser. Donc là, il ne s'agit pas d'utilisation de carte vitale vis-à-vis de la sécurité sociale, mais vis-à-vis de professionnels de santé. Mais c'est important de les mentionner puisque ce sont des partenaires extrêmement importants du système. Donc en conclusion, on ne peut que dire que le renforcement de l'information préalable qui permet d'éclairer, de responsabiliser l'assuré internaute est vraiment la voie à suivre pour faire de ces assurés des acteurs de leur protection sociale. Est-ce que cette information est suffisante? Est-ce qu'il ne faudrait pas livrer aux personnes qui le souhaitent des données brutes et des règles de gestion pour qu'ils puissent, par exemple, auditer les moteurs de calcul qui leur calculent leurs droits sans qu'ils sachent trop bien comment, parce que les règles ne sont publiées nulle part? Est-ce que le consentement de la personne ne devrait pas retrouver une place plus claire dans l'utilisation de leurs données personnelles par les organismes de sécurité sociale? Autant de questions qui restent ouvertes. Et que le projet de règlement qui a été mentionné à plusieurs reprises, même s'il est critiquable sur plus d'un point, permet quand même d'ouvrir, puisque ce projet de règlement redéfinit des cas de consentement express, d'une part, et d'autre part, il encadre le droit à l'oubli, qui va forcer donc les administrations à prévoir des durées paramétrables au terme desquelles les données seront effacées et donc les moyens techniques permettant aux personnes d'exercer ce droit à l'oubli. Je vous remercie.